7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, l'école à la radio. Aujourd'hui, la classe de Sarah Vauquier. Comment s'y retrouver dans les formes géométriques et puis les solides? Il suffit d'un crayon, d'une feuille, d'une gomme pour les enfants. Et en deuxième partie d'émission, le guide de survie des débrouillards. Aujourd'hui, vous aurez des explications scientifiques pour survivre à la pandémie et aux gestes barrières. Les voisins canadiens, Raphaël et Massy, que vous connaissez bien maintenant, vont nous permettre de comprendre pourquoi le confinement est si dur pour nos cerveaux, en particulier celui des plus jeunes. Et quant à vous, les enfants, les adolescents, vous savez qu'on aime bien avoir vos réactions. Alors dites-nous quelles sont les connaissances qui vous sont utiles, ce qui vous intéresse aussi à l'école. Et les parents, bien sûr, vous avez la parole. Vous nous appelez, vous nous écrivez, vous nous postez des messages vocaux au 33 7 64 45 51 41. Un papa nous écrit, il est dans le sud-est du Bénin, à Sémé, à propos de la leçon de Gérard Sans Faute et de l'un des problèmes de maths. Il nous dit « J'avais appliqué la règle de 3 classiques, mais je trouvais que le résultat n'était pas logique puisque inférieur à 60 jours. » Je vous rappelle, c'était une histoire de durée de construction d'un mur par un certain nombre d'ouvriers. « Alors, nous dit ce papa, j'ai relu les remarques du problème et j'ai compris. Le comble, c'est que ma fille, Athéna, avait bien compris le problème et avait commencé à bien le résoudre, selon les consignes de Gérard Sans Faute. Mais je lui ai dit que c'était faux. » Eh oui, l'école à la radio, ça peut créer de petites polémiques, finalement, dans les foyers. Merci pour ce message, en tout cas. Un grand bravo également à Della, qui est en CM2, qui a réussi le problème sur la règle de 3, donnée par Maître Sans Faute. Merci aussi à Fatou, Natacha, Radim, élève au complexe scolaire Angela Davis de Malika Plage au Sénégal, pour leurs beaux dessins que nous avons publiés sur Instagram. Allez voir notre compte, très sympa, 7 milliards RFI. Et puis aussi le message de cette jeune voisine.
Bonjour Emmanuel, je m'appelle Léa Mbou, j'ai 10 ans, je suis en classe d'examen avec M. Sanya à l'école Angela Davis. La règle de 3 s'utilise quand il existe de manière évidente une proportionnalité entre deux variables. Exemple, les relations entre les distances sur la carte et les distances sur le terrain dans les problèmes de gestes. Merci, à bientôt, je t'embrasse très fort.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, l'école à la radio.
Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes enseignante pour l'école à ciel ouvert. C'est d'ailleurs le titre de votre livre aux éditions La Salamandre qui inspire toutes vos leçons pour l'école à la radio. Sarah, vous êtes une maîtresse qui parle le suisse-allemand et le français. Et aujourd'hui, vous proposez... les deux langues. Et aujourd'hui, vous proposez aux enfants, en français bien sûr, de rechercher des formes géométriques et des solides et de créer des animaux fantastiques à partir de ces formes.
Exactement.
L'objectif, c'est quoi, Sarah?
Déjà, on reconnaît des formes géométriques et des solides. Les solides, c'est les formes géométriques en 3D qu'on arrive soi-même à créer et à les transformer aussi. Et puis, on va, avec les plus âgés aussi, faire un petit calcul à la fin.
Voilà, 3D, c'est 3 dimensions, c'est comme dans la vraie vie, c'est l'inverse de ce qui est couché sur le papier. Alors pour ces exercices, les enfants, vous avez besoin d'un crayon, d'une feuille et d'une gomme. C'est toujours du matériel très simple avec Sarah. Crayon, feuille et gomme, et c'est parti Sarah.
Ben oui, aujourd'hui on va commencer tous ensemble, d'ailleurs aussi les parents, vous pouvez aider vos enfants ou vous inspirer vous-même par les activités qu'on fait. On a besoin de nos yeux aujourd'hui parce qu'on va regarder qu'est-ce qui est rond et qu'est-ce qui est anguleux autour de nous. Alors moi je regarde dans le salon, la chambre où je suis, qu'est-ce qui est rond?
Alors les enfants regardent autour d'eux, qu'est-ce qui est rond? Peut-être si vous n'êtes pas loin de la cuisine, regardez les ustensiles. Moi, je vois des boutons pour le studio à la radio. Des boutons qui sont ronds.
Moi, j'ai des vis dans le mur et j'ai un grand ballon sauteur qui est devant moi.
Ah, j'espère que vous avez un ballon aussi, les enfants.
Là, j'ai une bouteille d'eau aussi qui a un couvercle qui est rond. Si on le regarde d'en haut comme ça, il a l'air rond.
Bon.
Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines choses sont rondes et puis d'autres non ?
C'est vrai, c'est curieux, on ne se pose pas la question, Sarah.
Par exemple, ben si je prends mon grand ballon sauteur, pourquoi il est rond ? À quoi ça sert qu'il est rond, à votre avis ?
À rebondir, peut-être ?
Ben c'est ça, hein. Je crois sauter avec un ballon sauteur carré, ça va être plus difficile, hein.
On se cognerait sur les angles.
Ma vis dans le mur, alors, j'ai jamais essayé de visser avec une vis carrée ou anguleuse. Je sais pas si ça marche bien, je crois qu'elle tient pas très très bien.
Alors pour une table, c'est la même chose de prendre son repas sur une table ronde ou avec des angles rectangulaires.
Exactement aussi, mais demandez-vous aussi de chez vous pourquoi vos objets que vous avez vus qui sont ronds, pourquoi à votre avis ils sont ronds. Et puis les tables, ben ça c'est spécial parce qu'il y a des tables dans toutes les formes possibles.
Alors les enfants sont en train de chercher autour d'eux maintenant qu'ils ont trouvé un objet rond. Qu'est-ce qui est carré ? Qu'est-ce qui est rectangulaire ? On va rappeler la différence, Sarah, entre carré...
C'est ça. Donc, on va chercher des choses qui ont des angles. Hein. Par exemple, j'ai une petite chaise pour enfant devant moi. Elle est carrée. Donc, son siège est en forme de carré. Le carré, ça a quatre angles. Et puis, chaque côté du carré a la même longueur. Donc, ça, c'est le carré. Et la table qui est à côté... ça forme plutôt un rectangle. Donc, j'ai deux côtés qui sont plus courts, mais de la même longueur, et puis les deux autres qui sont longs et de la même longueur. Donc ça, c'est rectangulaire.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit, Sarah, le ballon, heureusement qu'il est rond, parce que sinon, comment on ferait pour jouer au ballon ? Mais pourtant, il y a beaucoup d'objets qui sont carrés, et il y a aussi une bonne raison à avoir des objets carrés, je crois, non ? Ou rectangulaires.
C'est ça, hein. Ça a une raison pratique parce que souvent, les choses carrées ou avec des angles se laissent plus facilement ranger, plus facilement emballer et puis stocker les unes sur les autres. Mm-hmm. Mais pourtant, chez nous au moins, on a aussi des maisons qui sont plutôt anguleuses que rondes. Et puis si on veut tout coincer dans un petit coin avec pas beaucoup de place, parfois c'est plus simple, on arrive à les tasser un peu mieux quand ils ont des angles que quand ils sont toutes rondes.
C'est vrai que pour transporter des bouteilles par exemple, il vaut mieux une caisse ou un carton rectangulaire.
Ça, oui.
Sinon, si
oui.
Transporter des bouteilles dans un carton rond, ça serait peut-être plus compliqué.
Oui, tout à fait. Donc là, on a regardé à l'intérieur, mais dans la nature. Est-ce que les choses sont plutôt rondes ou plutôt anguleuses ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Sarah, si on regarde par terre, il y a des cailloux qui peuvent nous couper avec des angles un peu pointus, non ?
Oui, mais il y a toutes sortes de cailloux. Hein. Si je regarde dans le ruisseau où je suis, les cailloux sont plutôt rondes. Hein. L'eau les a travaillés et ils ont une forme ronde. Et d'autres qui étaient découpés, mais souvent aussi par nous-mêmes, par les humains, mais ils ont des angles, hein. Ils peuvent nous couper, tout à fait. Si je regarde dehors, hein, les arbres, les fleurs, peut-être aussi les feuilles que je vois... il y a plutôt rarement des angles. Et là, on pourrait aussi se demander pourquoi.
C'est
vrai. Pourquoi c'est plutôt rond et moins anguleux dehors dans la nature que dedans dans ma chambre.
Vous avez raison. Regardez autour de vous, les enfants. Tout est globalement toujours un peu rond, un peu ovale, un peu arrondi dans la nature, dans les arbres, dans les buissons.
Mais même si vous regardez votre corps, hein, en doigt... c'est plutôt rond que
oui.
Carré ou anguleux. Hein.
Oui, ça, alors, on n'a pas de doigt carré. Oui.
Pour trouver la réponse à cette question. Alors, une réponse, c'est apparemment que tout ce qui est vivant, ça pousse plus facilement en forme ronde qu'en forme carrée. Aussi parce que dans quelque chose de rond, on peut mettre beaucoup plus de choses que dans quelque chose de carré. Et puis souvent, une forme ronde, elle est plus stable qu'une forme qui est carrée. Donc, si on s'imagine notre corps, regardez votre corps, on a plutôt des membres ronds. Si nous, on était carrés, on serait tous un peu moins stables et plus gros pour pouvoir abriter en nous tout ce que notre corps contient, les organes, les intestins et tout ça. Et pour grandir, c'est un peu pareil. Imaginez-vous votre pouce qui va grandir en carré.
Donc, oh là là.
Il va pousser vers tous les côtés, mais avec le même tempo, donc il devrait grandir plus vite pour arriver vers les angles que sur les lignes sur les côtés. Donc voilà.
Alors finalement,
si ça pousse en toutes les directions, que ça plutôt être rond que anguleux.
La vie est ronde comme une planète finalement, Sarah.
Comme la ronde des saisons, hein, les saisons qui reviennent. La vie qui repart, le cycle de la vie, de la mort.
Sarah, vous nous avez promis qu'on allait fabriquer des animaux fantastiques en deux dimensions et en trois dimensions pour faire de la géométrie.
C'est ça, donc on va quitter un peu cette leçon philosophique sur le rond et l'anguleux. Et puis avec les 6-7 ans, on va faire des animaux fantastiques en deux dimensions. Donc vous pouvez, après l'émission, aller à la recherche des petites choses rondes et des petites choses anguleuses. Vous pouvez aller chercher dehors et dedans. Et elles devraient vraiment être petites parce qu'elles devraient avoir de la place sur votre feuille. Et avec ces choses rondes et ces choses anguleuses, je vous invite de créer deux animaux fantastiques. Un animal qui est fait de vos choses rondes et puis un autre qui est fait de vos choses anguleuses.
Alors, on est bien d'accord, Sarah, qu'un animal fantastique, c'est un animal qui n'existe pas pour de vrai.
Non, mais alors vous pouvez complètement inventer comment il a l'air, cet animal. Si vous trouvez vos choses dans la nature, vous pouvez peut-être même les coller directement sur votre feuille. Après, si vous trouvez des choses dedans sur le bureau de votre papa, c'est peut-être pas très sympa auprès de lui de les coller, mais vous pouvez juste les poser sur la feuille et puis, avec un crayon, dessiner leur contour.
Est-ce que vous vous souvenez d'une création d'un de vos élèves, Sarah, d'un animal fantastique en deux dimensions?
Oui, ben, nous, on a beaucoup fait avec des feuilles et des éléments naturels dehors. Et les enfants, souvent, ils représentent quand même un animal qui est proche de nôtre, genre un renard ou une souris, mais qui n'a pas tout à fait l'air d'une souris normale ou d'un renard normal qu'on voit dehors. Il y avait des très, très jolies constructions. Parfois, ils rigolent aussi ou ils font des grimaces. Donc ça, c'est tout possible. Donc, une fois que vous avez fait vos deux animaux fantastiques, vous avez les collés sur une feuille, vous avez dessiné leur contour, inventez un nom pour vos deux animaux. Et puis, décrivez à vos parents, vos frères et sœurs, quelle forme géométrique vous avez utilisée pour les créer. Alors, vous pouvez leur montrer les carrés, les rectangles, les ronds, les triangles que vous avez utilisés pour créer vos deux animaux.
Les triangles, souvenez-vous, trois côtés.
C'est ça, triangle.
Et bien sûr, on attend les photos, hein, les enfants de vos animaux fantastiques. Faites-nous rêver et vous postez tout ça sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Et on partagera sur notre compte Instagram 7 milliards RFI.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Ouais, on va aller vers les 8-10 ans maintenant. Hein.
Allez, donc, les 8-10 ans, ça va être un petit peu plus compliqué. Hein.
C'est ça, vous allez construire vos animaux fantastiques en 3D, en 3 dimensions. Et pour cela, il faut qu'on travaille avec les solides. Comme j'ai dit avant, un solide, c'est une forme géométrique en 3 dimensions. On va d'abord les répéter, comme ça vous vous rendez compte de la multitude des solides qui existent. Il y a des solides qui sont tout ronds. Par exemple, ben, la boule, ben, mon ballon sauteur, hein, ça serait un solide rond. On dit boule ou parfois on dit sphère aussi pour un solide qui est rond. Et il y a des solides qui sont ronds mais anguleux aussi. Par exemple, le cône. Le cône, moi je vois là sur la rue, hein, il y a comme une sorte de petit chapeau avec une pointe. Hein, ça, c'est un cône.
Oui, il y a une pointe qui s'évase et au bout, c'est rond.
Au bout, c'est rond, exactement. Un autre solide qui est rond et anguleux, c'est le cylindre. Hein, ça peut être ben, le bouchon de ma bouteille. Hein. Il y a des ronds en bas, en haut, et puis après, il y a quand même des angles et puis des lignes qui sont un peu coupées.
Alors moi Sarah, je vois exactement un cylindre parfait dans le studio de l'école à la radio, à côté de mes jambes. Ce sont les pieds de la table, parce que ce sont des pieds cylindriques, des tubes en acier en forme de cylindre. Donc en forme de tuyau finalement.
Oui. Mais moi, je vois aussi des piliers d'or et des poteaux hein, qui ont la forme de cylindres. Et si jamais les enfants, vous ne souvenez pas très bien des noms de ces solides, essayez maintenant de les dessiner rapidement sur votre feuille et puis notez leurs noms. Hein. On a eu le tout rond, hein, la boule ou la sphère, mon ballon sauteur. On a eu le cône, hein, que je vois là, comme un petit chapeau de sorcier, hein, je vois sur la route. On a eu le cylindre, hein, peut être un pied rond d'une table, mmh. un pilier en poteau.
Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre alors?
Et puis voilà, ben là on arrive aux solides qui sont complètement anguleux. Le cube par exemple, alors je crois, ça vous pouvez bien vous imaginer, c'est comme le dé pour jouer. Il a 6 faces pareilles en forme de carré. Ça c'est un cube. Et après il y a les pyramides. Ben je crois vous pouvez penser aux pyramides en Égypte tout simplement.
Et tous ces solides, Sarah, on les dessine ou on les fabrique en 3 dimensions?
Pour l'instant, on les nomme. Vous pouvez rapidement les dessiner sur la feuille si vous avez oublié comment ils se nomment. Et puis après, on va aller à la recherche de solides autour de chez vous. Donc, vous pouvez aller dehors, chercher ce que vous trouvez, aller dedans, chercher des choses ou bien fabriquer des solides vous-même hein, si vous êtes créatifs, des bons créateurs et créatrices pour créer 2 animaux fantastiques. Donc un animal de nouveau qui est plutôt rondouillé et puis un autre qui est, on pourrait dire, complètement carré. Donc pour l'animal rondouillé, vous utilisez des cônes, des cylindres, des boules, des ronds, des ovales. Donc tout ça c'est possible. Et puis pour l'animal complètement carré, vous allez utiliser des trucs avec des angles. Comme des pyramides, des cubes, des carrés, des rectangles, des triangles.
Alors pour fabriquer vos animaux fantastiques, bien sûr les enfants, vous pouvez par exemple utiliser de la farine et de l'eau, peut-être pas trop, hein, faites de petits animaux fantastiques pour pas trop gaspiller la farine, mais ça va vous permettre de créer des animaux en 3 dimensions.
Ça on peut faire, ou juste avec des papiers, hein, on peut dessiner les animaux et puis découper et les coller. Donc, si vous allez chercher des choses, vous pouvez tout simplement arranger vos objets sur le sol ou sur une table jusqu'à ce qu'ils forment un animal fantastique qui vous convient. Puis après, vous le prenez en photo. Vous allez nous écrire aussi comment il s'appelle et combien de formes géométriques et de solides, de quelle sorte vous avez utilisé pour sa construction. Donc ça, ça vous permet de renommer toutes ces formes et ces solides qu'on a travaillé aujourd'hui.
On attend les photos, les enfants, avec donc un animal rondouillé, comme nous a dit Sarah, et puis un animal très anguleux, très carré. On attend les photos de vos 2 animaux fantastiques en 3 dimensions.
C'est ça. Et puis, je vois qu'on a oublié encore un solide, le prisme. Ça peut être genre une brique de lait ou un carton ou... chez nous, un radiateur qui a beaucoup d'angles aussi. Donc, cette forme, vous pouvez bien sûr aussi la nommer et l'utiliser dans la fabrication de vos animaux fantastiques.
Les photos, vous les postez sur le compte WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, on va les partager, vos plus beaux animaux fantastiques à partir de figures géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Sarah?
Bon, on va encore faire une petite révision de certaines propriétés des solides. Pour cela, il faut vous trouver un objet qui ressemble à un solide dans les environs. Par exemple, le couvercle de la bouteille que j'ai devant moi, une boîte d'allumettes, un pot de fleurs, une brique de jus de fruits, une brique de lait. Et je vous laisse un peu de temps pour chercher votre solide.
Est-ce qu'on peut proposer, par exemple, un solide qui aurait à la fois des formes courbes et des angles? Je pense, par exemple, à un instrument de musique, une cora, qui aurait forme en demi-sphère. Et puis, il y a une partie plate pour pouvoir poser les cordes.
Donc ça, on peut faire. Hein. On voit dans la réalité les formes géométriques et les solides. Il y a souvent des combinaisons, hein. Donc, est-ce que vous avez votre objet dans la main? Moi, j'ai trouvé 2 entre-temps.
Qu'est-ce que vous avez trouvé, Sarah?
Et le premier, vu que je suis suissesse, j'ai trouvé une plaque de chocolat dans notre cuisine. Voilà, une plaque de chocolat. Et avec cette plaque de chocolat, on va essayer de calculer le nombre de faces planes. Donc, on pourrait dire que c'est comme les surfaces ou les aires qui ont des angles. Donc, sur ma plaque de chocolat, on pourrait dire que c'est un prisme, en fait.
Oui.
Elle a six faces planes. On a une grande au-dessous, une grande au-dessus, et puis quatre qui sont un peu plus fins.
Oui, les tranches de la plaque de chocolat.
C'est ça.
Donc, deux grandes faces, et ensuite, 1, 2, 3, 4, 4 petites tranches en haut, en bas et sur les côtés.
C'est ça, donc regardez vous-même combien de faces planes vous trouvez sur votre solide.
Alors, si c'est une boîte d'allumettes, il y a le même nombre de faces.
Exactement pareil,
six faces.
Oui. Une brique, ça serait pareil aussi. Peut-être que vous avez un solide qui n'a pas de faces planes. Hein.
Les parents, n'oubliez pas que vous pouvez aider vos enfants, mais laissez-les chercher un petit peu avant de donner les réponses, surtout quand il faut compter les différentes faces sur une figure en trois dimensions géométriques.
C'est ça. Donc, on passe au prochain. On va essayer de trouver le nombre de faces courbes. Ça, c'est comme une surface ou une aire, mais elle n'est pas carrée ou rectangulaire, elle est ronde. Donc, ici, dans ma main, je tiens un petit instrument de musique de mes filles qui a une forme de cylindre. Donc, c'est comme un grand couvercle d'une bouteille. Écoutez comment il fait. C'est un bruit typiquement suisse aussi, hein, une vache. Donc, cet instrument-là a une face courbe en bas et puis une autre en haut. Et puis une au milieu, hein. elle est un peu rondouillée partout.
C'est la boîte à vache. Et bien, vous voyez, je peux ressortir ma cora, moi, Sarah.
C'est ça? Ouais, super.
Alors, est-ce que les enfants, vous avez trouvé une figure en trois dimensions avec une partie courbe?
Le pot de fleurs, par exemple, le couvercle de la bouteille. Hein. Là, il y a des parties courbes. Et voilà, je crois qu'on va continuer avec autre chose, une autre propriété des solides, c'est le nombre d'arêtes ou de lignes, on peut dire. Si je touche ma plaque de chocolat, je touche les lignes qui vont d'un coin de la plaque à l'autre, je trouve combien? Devinez.
Alors, les arêtes, donc
c'est... Une boîte allumette ou une brique, vous trouvez la même quantité d'arêtes.
Oui, exactement, les arêtes, vous les voyez bien sur la boîte d'allumettes, sur une boîte. Alors, on va laisser les enfants compter les arêtes. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas compter deux fois la même arête.
Il y en a beaucoup sur mon chocolat quand même. Hein. Moi, je suis à 12. Hein. J'ai 4 en haut, 4 en bas et puis 4 toutes courtes sur les côtés de ma plaque de chocolat.
12 arêtes également sur une boîte d'allumettes ou sur une boîte en général.
C'est ça. Et sur mon pot de fleurs ou mon couvercle de bouteille ou mon instrument de musique, je touche que deux lignes en fait, une en haut et puis une en bas. Donc cet instrument, il a deux arêtes.
Et ça serait la même chose pour une bouteille, Sarah, non?
Exactement, on pourrait dire ça. Dernière chose, c'est le nombre de sommets. Hein. Ça, c'est les angles ou les coins. Hein. Sur ma plaque de chocolat, j'en découvre de nouveau plusieurs coins. Et vu peut-être aussi sur votre boîte d'allumettes ou votre brique, vous en trouvez combien de coins?
Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les marquer avec un feutre de couleur pour être sûr de ne pas vous tromper. Combien de coins? On ne parle pas des arêtes, on ne parle pas des faces, on parle bien des coins sur la boîte, sur le solide.
C'est ça. Donc, l'endroit où il y a deux lignes qui touchent, qui font un angle, moi, j'ai trouvé 8 sur ma plaque de chocolat. Et puis, maintenant, je cherche sur ma boîte à musique combien de sommets ou de coins il y a.
Alors, votre boîte à musique, elle est un peu comme une boîte de conserve, hein, si j'ai bien compris.
C'est un peu
mais
ça,
avec...
mais dominez.
C'est ça, avec une
de
vache dedans.
Avec une vache, ouais.
Eh bien, écoutez, vu qu'elle est ronde, on peut se poser des questions, non, Sarah?
C'est ça, hein, devinez, j'ai trouvé zéro coin, il n'y en a pas. Hein.
Oui.
Il y en a juste la ligne, alors l'arête en haut et en bas, mais il n'y a pas de coin, il n'y a pas de sommet.
Pas de coin dans une boîte de conserve. Allez vérifier dans la cuisine, les enfants.
On a fait tout ça. Pourquoi ? On a révisé les faces planes, les faces courbes, les arêtes, les sommets. Parce que sur vos animaux fantastiques, pour chaque forme que vous avez utilisée, essayez de noter le nombre de faces planes, le nombre de faces courbes, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets.
Alors essayez d'imaginer un animal fantastique qui n'existe pas dans la vraie vie. Tout est possible. Votre imagination est sans limite et bien sûr, il faut trouver un maximum de formes géométriques avec des arêtes, des faces planes, des angles. Et vous nous envoyez tout ça, vous postez sur le compte Instagram au 33 7 64 45 51 41. Si vous postez une super réalisation d'animal fantastique, on vous envoie un livre pour enfants.
Ah ben ça, c'est bien. Et puis moi, j'ai encore le défi final pour... Ceux qui calculent bien, j'aimerais bien avoir un calcul de chaque somme pour chacun de vos animaux. Alors, votre animal rondouillé, il y a combien de faces planes, de faces courtes, d'arêtes et de sommets? Et puis, votre animal qui est plutôt anguleux, la même chose. Combien de faces planes, de faces courtes, d'arêtes et de sommets? Et est-ce que vous remarquez une différence par rapport au nombre entre les deux animaux? Ça, ça m'intéresse de savoir.
Alors, il faut donc envoyer une photo où vous comparez vos deux animaux fantastiques. L'animal tout en rondeur et l'animal tout en angle.
Exactement.
Sarah Vauquier, je crois que c'est le moment de se quitter. Vous aviez prévu de nous faire un peu de publicité pour le Toblerone qui a une drôle de forme, ce chocolat en forme de pyramide égyptienne, mais ça sera pour la prochaine fois.
Ben bon, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, j'aurais bien aimé vous offrir un bout de chocolat à chacune et chacun qui réussit cette tâche de calcul. Sauf par la radio, j'arrive pas vraiment à vous passer la Toblerone.
C'est l'intention qui compte, Sarah. En tout cas, on se régale avec vous, en pensée. Merci beaucoup, Sarah Vauquier. On vous souhaite de belles leçons dans la forêt avec les enfants, puisque vous étudiez beaucoup les mathématiques avec la nature. Merci, très belle journée à vous, Sarah Vauquier.
Au revoir à tout le monde.
À suivre, les enfants, notre rendez-vous quotidien avec Massy et Raphaël. Vous vous souvenez, les débrouillards qui vous racontent chaque jour comment survivre à certains problèmes avec de bonnes connaissances. Aujourd'hui, comment survivre à une pandémie. Bon, d'accord, c'est vrai que vous savez déjà beaucoup de choses sur les pandémies. Se laver les mains, porter un masque, mais c'est pas tout. Allez, restez avec nous, les enfants.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
C'est pas la peine, je ne décrocherai pas l'appel. Je suis écorché par ma haine, je suis coaché par la flemme. Eux et nous c'est pas la même, ils parlent d'oseille dans leur texte. Ils ont signé leur contrat dans une combi en latex. Viens on parle après, là j'ai des trucs à faire. Genre trouver la paix, je ferai jamais en ta présence. Viens on parle après, là j'ai des trucs à faire. Comme nettoyer le sang des rages sur ma paire blanche. On fermer la porte, on passera par la fenêtre. Pas la mer à boire, on peut trouver la paix. On va trouver la force, on aura besoin d'un peu d'aide. En vrai, c'est pas la mer à boire, on va trouver la paix. Je peux plus croire, tu sais, dans ma tête. Faut qu'on se casse avant que les portes se ferment. On se fait la belle pendant qu'ils se font la guerre. C'est pas la mer. De sous quand je suis debout, en vrai c'est saoulant. Mais c'est souvent que j'ai des doutes. Cette fois c'est sûr, on fait le tour. On va trouver ce qu'on cherche. On va chercher nuit et jour. Vu que la nuit porte conseil, moitié rebeu, moitié blanc. Je dis ça car je sais que tu doutes. Je ressemble à un anti-yes. Gère ta copine sur du zouk. Ce monde de merde part en couille. On peut rien faire, on va en cours. On se lève, on mange, on pleure, on court. On est souvent mal entouré, même en tournée. On peut s'unir ou bien subir. Et puis se dire que ce sera juste pire si on bouge. Si ça se trouve, trouver la peine n'est pas utile. Je vais la chercher sur ma planète, je mets mes fers, c'est sur ma palette. L'élève posé sur ma canette, je m'arrêterai dès que mon Mac s'arrêtera. Ils auront beau fermer la porte, on passera par la fenêtre. C'est pas la mer à boire, on peut trouver la paix. On va trouver la force, on aura besoin d'un peu d'aide. En vrai c'est pas la mer à boire, on va trouver la paix. Je peux plus croire, tu sais dans ma tête.
Vous écoutez l'école à la radio sur RFI, 7 milliards de voisins. Ça fait du bien ce petit flow, c'est qui qu'est ça ? La paix. Allez, on passe la balle au débrouillard maintenant sur l'autre continent. J'ai nommé le Québec avec nos amis Raphaël et Massy. Il est question aujourd'hui de mieux comprendre la pandémie, les gestes barrières et pourquoi c'est pas marrant pour nos cerveaux et davantage pour le cerveau des enfants.
Allô ?
Salut Raph, est-ce que tu m'entends ?
Oui, oui, c'est bon. Attends, je vais juste mieux placer mon micro.
Bon, à cause de la COVID, Raph, on est confinés. On peut plus se voir en vrai, puis il faut enregistrer notre épisode à distance.
Oh, je sais, mais tu sais quoi? Ça fait longtemps que ça dure, c'est pas facile, mais on va réussir à passer au travers.
Oui. Salut, je m'appelle Massy.
Et moi, c'est Raphaël.
Vous écoutez le guide de survie des débrouillards.
Le balado scientifique qui vous aide à faire face aux situations périlleuses et désagréables qui vous guettent à chaque instant.
Ce qu'il y a de franchement désagréable dans nos vies et ce qui est périlleux pour certains, c'est la pandémie.
Oh oui!
Le confinement et les restrictions, on s'entend, c'est difficile. Mais les experts nous indiquent que c'est essentiel pour réduire le nombre de personnes malades. Même les animaux, dans la nature, le font.
Ouais, on va vous expliquer ça. On va poser nos questions à la célèbre docteure Caroline Quash et on va essayer de comprendre pourquoi notre cerveau trouve ça si dur de ne pas pouvoir voir nos amis comme on le veut.
Et en grande primeur mondiale, on va recevoir en entrevue le virus lui-même.
Mais là, arrête de niaiser, Massy.
Je te jure, Raph.
D'accord, oui, bien sûr, le virus lui-même. Hey, mais c'est quand même fou qu'un aussi petit virus cause tout ça.
Et pour savoir comment il s'y prend, ben, je pense qu'il faut demander au principal intéressé, le responsable de la pandémie, en entrevue exclusive. J'ai fait venir un spécimen du virus SARS-CoV-2.
Hein? T'étais sérieux tantôt?
Ben oui, je mens jamais, moi, Raph.
Et tu l'as invité chez toi?
Relax, je me suis lavé les mains et je mets mon masque.
Eh boy, moi, j'aurais pas fait ça.
Bon, alors commençons. On y va dans 3, 2, 1, et c'est parti! Vous écoutez La Parole au Pas Fin, l'émission qui confronte tous ceux qui nous gâchent l'existence. Monsieur COVID, écoutez, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, vraiment. J'aurais aimé vous dire à quel point vous êtes le bienvenu, mais bon.
Ah, merci à vous de m'accueillir de manière aussi chaleureuse.
Monsieur COVID, vous êtes né à Wuhan, en Chine, en 2019, et depuis, vous prenez un malin plaisir à vous multiplier un peu partout sur la planète, ce qui a poussé les gouvernements à travers le monde à ralentir l'économie, à fermer les écoles, beaucoup ont perdu leur travail...
On vous déteste!
Wow, on se calme, là! Je comprends votre frustration, mais faut aussi comprendre que vous et moi, on n'a pas la même réalité. Vous, les humains, pour vous multiplier, ça prend un mâle et une femelle, et ensuite...
Oui, oui, on le sait.
Eh bien, moi, c'est pas pareil. Je dois m'infiltrer dans une de vos cellules, m'en servir comme une photocopieuse pour reproduire mon code génétique et créer comme ça plusieurs autres petits virus. On appelle ça la réplication.
Appelle ça comme tu veux, moi je pense que tu te sers de nous.
C'est vrai.
Mais pour une bonne raison quand même. Je veux assurer la survie de mon espèce. Vous voulez que je meure ou quoi?
Oui.
On veut que tous les virus disparaissent.
Wow! Attendez, vous savez, il en existe plein d'autres virus. Une seule cuillère à thé d'eau de mer peut contenir jusqu'à 50 millions de virus.
Menteur! Sinon, on tomberait malade à chaque fois qu'on va à la plage.
C'est parce que la majorité des virus sont inoffensifs. Mais bon, c'est pas mon cas, parce que moi, je suis un méchant, j'avoue. Si vous tombez malade à cause de moi, c'est parce que votre corps ne me connaît pas. Du moins, pas encore.
Bon, prochaine question. Monsieur COVID, comment avez-vous pu vous déplacer aussi vite à travers la planète?
Avec tous les humains qui prennent l'avion à chaque jour pour voyager dans le monde, c'était facile pour moi de traverser l'Atlantique, le Pacifique... la Méditerranée en un seul jour. Je suis un super-héros capable de se téléporter. Moi! Tout le monde me connaît maintenant. Je suis une vedette planétaire.
Ouais, ça veut pas dire qu'ils vous apprécient, par contre.
Je m'en fiche. Je vais tous vous contaminer pareil.
Pas si on se fait vacciner.
Ouais, bon. Un vaccin, ça prend plusieurs années à mettre au point. Donc vous êtes pognés avec moi pour un bon bout de temps.
C'est parce que les scientifiques ont vraiment été efficaces, on a déjà plusieurs vaccins, et ben, la vaccination a déjà commencé.
Quoi? En moins d'un an?
Coudonc, t'étais où? T'as pas écouté les nouvelles?
Ben non, j'étais trop occupée à contaminer le plus de monde possible. Ah, c'est pas juste, je veux dire, c'est... J'avais pas calculé ça, ça devrait être plus long avant que le vaccin arrive. Oh, je vous déteste tous.
Bon, Massie, je pense que l'entrevue est finie.
Bien d'accord.
Désinfecte-toi donc les mains, là.
Ouais, splouch.
Ah, je lui ai échappé du pérel dessus.
Oh, je suis presque déçue.
C'était le virus SARS-CoV-2.
Ciao, bye!
On n'est pas les seuls à s'isoler pour éviter de transmettre les maladies. La distanciation sociale, ben, c'est un concept qui existe aussi chez les animaux. Oui, chez plusieurs espèces animales, comme les souris par exemple, les malades se tiennent loin des autres, ce qui leur évite de contaminer le reste du groupe.
Ah, c'est intelligent.
Chez d'autres animaux, c'est l'inverse. C'est plutôt les individus en santé qui vont éviter les malades. C'est le cas chez les têtards de Wawaron et chez les langoustes, un genre d'animal qui ressemble à un homard, mais avec des plus petites pinces. Et chez les fourmis, ce qui est particulier, c'est qu'elles cherchent aussi à protéger les plus vulnérables. Oui, oui, quand une épidémie arrive dans une fourmilière, les fourmis vont déplacer les larves et les bébés dans une espèce de zone protégée, loin des malades.
Waouh! Je savais pas qu'il y avait autant d'espèces d'animaux qui faisaient de la distanciation sociale. Mais est-ce qu'ils savent qu'il y a des maladies? Est-ce qu'ils font tout ça de manière consciente?
Ça, on le sait pas. Quand les scientifiques observent un comportement, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête de l'animal. Est-ce que c'est une intention réelle ou c'est son instinct qui l'amène à faire ça?
Ah, mais il y a juste une façon de le savoir. Prochain épisode, on a juste à interroger une fourmi.
Haha, grave, très drôle. Bon, c'est bien beau s'isoler pour empêcher de transmettre la maladie, mais on pourra pas continuer comme ça éternellement.
Ah, par pitié, non!
Donc je me demande, c'est quoi le plan de match pour vaincre ce virus-là et retrouver notre vie d'avant?
Hey, tu sais quoi, Massie? Je propose qu'on appelle Dr. Caroline Quash. Elle est microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste. Ça veut dire que les maladies contagieuses, les virus puis la gestion des pandémies, là, elle connaît ça!
Allô?
Salut Caroline, c'est Raphaël et Massie du Guide de survie des débrouillards. Les périodes de confinement, de ne pas pouvoir voir nos amis et notre famille, est-ce que ça a donné quelque chose selon toi?
Si on s'était pas isolé comme ça, le virus se serait propagé à beaucoup plus grande vitesse et puis les hôpitaux auraient été débordés déjà depuis la première vague. C'est sûr que c'est difficile, mais il y avait une raison derrière tout ça.
Mais là, le vaccin existe et il est prêt, donc la pandémie est finie, non?
Oui, le vaccin existe, mais il n'y en a pas assez encore pour vacciner tout le monde.
Donc, est-ce qu'il faut attendre que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse retrouver une vie normale?
Probablement qu'on va pouvoir recommencer à vivre un peu plus normalement quand les gens les plus à risque de complications, donc d'être hospitalisés ou de mourir, vont avoir été vaccinés. Puis il faut s'assurer aussi que les gens, quand on leur offre le vaccin, veuillent bien se faire vacciner.
Mais si on essaie d'être optimiste un peu, là, s'il y a une proportion suffisante de la population qui est vaccinée, on va retrouver peut-être notre vie normale d'un coup? Ou ça va être graduel?
En fait, les restrictions vont se lever de façon graduelle, à l'envers de ce qu'on a imposé, en fait, là. Puis probablement que la dernière chose qu'on va retirer, c'est le port du masque dans les endroits publics, mais tu sais, on va pouvoir recommencer à se voir en petits groupes, puis à aller au restaurant, puis aller au cinéma, puis au musée, mais de façon graduelle. C'est ce qu'on espère. Puis après ça, est-ce que le virus va disparaître complètement? Probablement pas. Mais si les gens sont protégés, du moins en partie, ou s'il y a un vaccin qui est disponible à chaque année, il va être plus comme un mauvais souvenir de rhume qu'un virus qui va nous rendre malades au point où on est obligé de refermer la société.
On a demandé à des débrouillards si eux, ils avaient déjà des idées pour vaincre la pandémie rapidement, là, genre en 2 semaines. On serait curieux de savoir ce que tu penses de leurs idées. On te fait écouter un premier extrait.
Je ferais un méga, méga rassemblement, puis un gros câlin collectif pour que tout le monde l'attrape. Puis après ça, en 2 semaines, on l'aurait tout eu. Puis là, on serait comme immunisé, mais je sais pas si la COVID est faite comme ça.
C'est vrai que si on le donnait à tout le monde en même temps, on s'en serait débarrassé. Le seul problème, c'est que là-dedans, il va y avoir plein de morts puis plein de gens à l'hôpital qu'on pourra pas sauver parce qu'on n'aura pas assez de lits, de ventilateurs et tout le reste. Ce qu'on veut, là, c'est avec le vaccin, remplacer ce câlin collectif pour que tout le monde soit protégé contre le virus, mais sans le risque d'être malade et d'en mourir.
Voici une autre proposition d'un débrouillard.
Je pense qu'on pourrait faire passer des hélicoptères qui lâchent du désinfectant. Ça, ben, c'est comme si c'était de la pluie, mais t'en as sur toi, donc t'es tout désinfecté. Mais le virus est plus là.
ça marcherait si le virus il restait en suspension dans l'air et que une fois qu'on l'avait inspiré, on serait plus à risque d'être contagieux. Le problème, c'est que quand on est malade, on continue à excréter du virus pendant une dizaine de jours. Et pendant ce temps-là, à chaque fois qu'on souffle, qu'on parle ou peu importe, on est à ce moment-là à risque de transmettre le virus aux gens autour de nous. Par ailleurs, je ne suis pas sûre que j'ai envie d'être exposée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 semaines à du désinfectant.
Bien, merci beaucoup, Caroline.
Merci, Caroline.
Ça me fait plaisir. On reste optimiste.
C'est pas juste au Canada que nos vies sont chamboulées par la pandémie. Les mesures de prévention touchent des milliards de personnes à travers le monde. On n'a jamais vu ça dans l'histoire.
Mais une pandémie, ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça.
Non, mais c'est pour ça qu'on a demandé à un vrai historien, Laurent Turcot, qui anime le balado Femmes d'histoire, de nous rappeler quelques-unes des grandes pandémies qu'a connues l'humanité.
Au 14e siècle, en plein Moyen Âge, l'Europe et l'Asie sont ravagées par la peste noire. Puisque la médecine de l'époque ne connaissait rien aux bactéries et aux virus, la maladie a tué un Européen sur trois. Ouais, ouais, attendez, en seulement 5 ans. Ça fait beaucoup de monde, ça. Mais on s'est quand même rendu compte que quand on isole les malades et leurs familles, ben, l'épidémie ralentit. Ben oui! Et donc, les scientifiques vont commencer à comprendre l'utilité de la fameuse distanciation sociale, celle que vous devez appliquer tous les jours. Il y a un siècle, de 1918 à 1920, on a connu la grippe espagnole. Bon. C'était pas juste en Espagne, là. Le tiers de la population mondiale aurait été infectée. Vraiment pas jojo comme maladie. On évalue qu'elle aurait fait entre 20 et 100 millions de morts. C'est vraiment beaucoup plus que la COVID, ça. Et c'est pour gérer cette pandémie-là que le gouvernement du Canada a créé le ministère fédéral de la Santé, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc ça, la grippe espagnole, c'était la dernière grosse pandémie à avoir bouleversé la planète. Il y en a eu d'autres depuis, mais les conséquences étaient moins graves, comme celle de la pandémie de la grippe H1N1. Ça, c'est en 2009, il y a à peine 11 ans. C'est un virus qui nous a fait peur, mais qui finalement était bien moins dangereux et contagieux qu'on le craignait au départ. Donc, ce sont pas toutes les pandémies qui ont des impacts aussi importants que celle de la COVID-19.
Ouais, donc, c'est pas la première pandémie, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec les progrès de la science, nos conditions de vie qui sont meilleures, les nouveaux médicaments, ben les pandémies d'aujourd'hui font beaucoup moins de morts qu'avant.
Avec le coronavirus, tout le monde s'est retrouvé dans une situation problématique. Et même dans nos vies de tous les jours, il y a plein d'idées originales qui existent pour avoir du plaisir avec créativité. Par exemple, pour garder contact avec nos proches, il y a toujours les appels vidéo.
Oui, puis pas juste pour parler puis se donner des nouvelles. On peut aussi jouer à des jeux ensemble, au bingo, au loup-garou.
Oh, faire des mimes!
Des chorégraphies ensemble!
Oui, et on peut inviter nos grands-parents à venir nous joindre dehors. Nous, on est sur le balcon et eux, bah, en bas. Comme ça, on est sûr de respecter la distance de 2 mètres.
Ah, puis moi, j'ai participé à un bal virtuel. Il y avait quelqu'un qui était DJ, qui faisait jouer des chansons, puis tout le monde danse, chacun dans sa maison, et on se voit sur nos écrans.
Bonne idée, danser chez soi, c'est bien, je le fais souvent, mais il faut sortir aussi. Pour garder le moral, c'est tellement important de continuer à jouer dehors.
Hey, en hiver, on peut construire des forts ou faire un concours de bonhomme de neige.
Sinon, on peut aussi jouer à la cachette en gardant ses distances. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est trouver des façons de souligner nos anniversaires, même si les rassemblements sont interdits.
Ah, plusieurs idées. Premièrement, on s'habille à notre goût, on décore la maison, même si les amis sont pas là en personne. Mine de rien, ça va aider à sentir que c'est une journée spéciale.
Ensuite, si tes amis t'offrent un cadeau, oh, ils peuvent venir te le déposer à ta porte dans les jours avant ta fête. Toi, tu leur envoies une recette de petits gâteaux et ils peuvent le faire à la maison, oui, oui! Puis là, tout le monde se retrouve en vidéo pour déballer les cadeaux et manger un petit cupcake.
Quoi? Un seul cupcake par personne? Puis t'appelles ça une fête?
OK, t'es difficile, Raph. Plusieurs cupcakes, tiens.
Cupcakes à volonté!
En tout cas, ça montre qu'il y a plein d'options.
Ah oui, vanille, chocolat, fraise,
Raph, c'est pas ça que je veux dire. Raph, je vais couper ton micro.
Caramel. Raph.
Bon, c'est vrai, on en a encore pour un certain temps, c'est sûr, mais on est vraiment meilleur qu'avant.
Ah, mais j'ai quand même hâte que ça finisse. Personnellement, j'ai déjà commencé à faire la liste de tout ce que je vais faire après la pandémie.
Ben écoute, courage, Raph, ça s'en vient. Mais bon, même si la pandémie n'est pas encore finie, notre épisode, lui, ben il est fini.
C'était le guide de survie des débrouillards, un balado de Radio-Canada Audio et du magazine Les Débrouillards.
Avec toi, Raphaël de Rome.
Et toi, Massy Mayou.
Merci à notre recherchiste Julie Champagne, qu'on n'a pas vue en personne depuis des mois. Et à Philippe Marois, notre réalisateur masqué caché à distance dans son sous-sol.
Un grand merci à notre invitée, Dr. Caroline Quash, à l'historien Laurent Turcot, à la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier pour ses conseils et à tous les débrouillards qui ont répondu à nos questions.
Et le guide de survie des débrouillards de Radio-Canada Audio, ce sont 10 épisodes en tout à écouter en format plus long, en podcast sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Vous avez le lien direct. Demain, l'école à la radio, dernier jour d'école avec maîtresse Laurence, des révisions très utiles pour enfin savoir écrire les nombres en lettres, donc l'orthographe des nombres. C'est bien de l'orthographe. 2021, une année fantastique. Comment on écrit 2021? Ça donne quoi? Allez, envoyez vos réponses sur notre WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Je recommence la dictée. 2021. Dans quelques instants, le journal, juste après ce trio espagnol, colombien, vénézuélien, c'est le choix musical de Romain Dubrac. Santa Marta chante Luvia, ça veut dire l'eau du ciel dans le parler de Caracas. Milliards de voisins, on se retrouve demain pour l'école à la radio. Merci à toute l'équipe, Juliette Bro, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Et bien sûr, d'ici là, vous réécoutez toutes nos émissions en toute liberté, en podcast, sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.